Conférence organisée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est l'espace Mendès France qui nous accueille régulièrement. Alors, nous avons déjà fait un certain nombre de conférences. Nous avons invité des médecins, des avocats. Et puis cette fois, eh bien, nous avons invité une psychanalyste. Alors, je vais vous présenter brièvement l'association pour les gens qui ne connaissent pas. Je n'ai pas l'habitude de parler. Alors, je vais essayer d'être claire quand même. Donc, notre association pour le droit de mourir dans la dignité existe depuis 1980. Donc, ce mot dignité qu'on peut nous reprocher, eh bien, il n'est pas d'hier, hein. Il a 32 ans maintenant. Et notre association milite pour permettre à chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. Et depuis 1980, elle a œuvré afin de voir reconnaître à chacun le droit de bénéficier des meilleurs traitements contre la douleur, de refuser l'acharnement thérapeutique, d'obtenir sur demande lucide et réitérée une mort douce. Alors, les deux premières revendications sont inscrites dans le Code de la santé publique au titre des droits des malades. La loi de 2002, qui a été renforcée par la loi de 2005, qui est dite loi Leonetti. Les objectifs prioritaires pour la DMD sont le respect par le corps médical des directives anticipées qui sont inscrites à la loi dans la loi de 2005, la possibilité d'accès aux soins palliatifs pour tous, ce qui n'est pas le cas, le vote d'une loi légalisant l'aide active à mourir à la demande de la personne concernée, comme en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg. La DMD se situe au-delà des considérations politiques et confessionnelles. Alors, ici à Poitiers, nous ne sommes qu'une délégation. La DMD est une association nationale. Notre président est Jean-Luc Romero. Alors à Paris, donc, il y a des services administratifs et il y a aussi différentes commissions, commissions médicales, commissions juridiques. Il y a des commissions maintenant pour le grand âge, pour Alzheimer et aussi une commission jeune qui a été créée par des jeunes atteints, enfin notamment il y en a un qui est atteint de mucoviscidose et qui est dans un état de santé plutôt difficile. À Paris, il y a un site où vous pouvez vous rendre sur Internet et il y a un numéro d'écoute et vous pouvez faire part de vos problèmes. Et il y a certaines journées, je ne pourrais pas vous dire exactement comme ça les horaires, mais ça, c'est sur Internet, il y a la commission médicale qui peut répondre, et un autre jour, c'est la commission juridique. Voilà, j'essayais d'être brève. Et puis après, bon, on pourra en discuter hein, pour les gens qui sont intéressés. Alors, nous avons donc choisi de faire venir Madame Florence Plomb, qui est psychanalyste. Elle travaille en libéral dans les Landes. Elle est aussi formatrice et superviseure à l'Institut européen de psychanalyse et de travail social. Elle est auteure de deux ouvrages que vous pourrez trouver dans l'entrée. Et le premier, c'est... Question de vie et de mort. Et la deuxième, vivre la perte.
C'est le titre de la conférence.
Excusez-moi. Voilà. Donc aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est vivre la perte. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Plomb.
Et bonsoir. Alors, je vais essayer de vous expliquer le point de vue de la psychanalyse et d'un psychanalyste en ce qui, vous entendez là comme ça, en ce qui concerne la perte. Vous n'entendez pas ? Alors,
Là, c'est mieux ?
Oui.
Qu'est-ce que la perte, ou plus exactement, qu'est-ce que perdre ? Pour chacun d'entre nous, le mot ne représente pas forcément la même chose. Ce peut être perdre au jeu, perdre son chemin, perdre ses papiers, ou encore perdre un proche, ou perdre le nord, la tête, ses repères. Le dictionnaire d'étymologie nous indique que le mot « perte » vient du latin « perdita », du verbe « perdere », qui est un terme désignant à l'origine la privation qui résulte de l'absence d'un être cher du fait de sa mort. Le passage à la perte d'un bien matériel ne s'est fait que plus tard par le biais de la métonymie. Ça date de 1180, pour la petite histoire. On voit bien là l'ambiguïté et la polyvalence de sens d'un tel mot et la dérive possible vers le contresens, entre autres pour les enfants, qui n'ont pas encore le sens de la métaphore et qui vont chercher à retrouver une grand-mère décédée au même titre qu'un trousseau de clés. Les mots ont un sens, voire plusieurs, que l'interlocuteur peut lui-même entendre dans un sens tout autre que celui qu'on lui donne. Cette large palette et marge interprétative est ce qui génère dans la communication entre les hommes le malentendu, chose qui s'ignore dans le domaine animal où le code est compris et énoncé entre tous de manière identique et statique. Chez l'humain, le langage est soumis à l'équivoque, mais cela peut avoir son charme, car si nous peinons à nous entendre, pour le moins, cela nous permet de parler, sinon tout serait dit une fois pour toutes. Vous le voyez, je m'engage dans la voie de vous parler du langage. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'être humain est, par définition, un être de langage. Cela veut dire quoi au juste ? Cela veut dire que nous sommes dépendants des mots et du sens que nous leur donnons, d'où l'importance de la chose. Et ce, d'autant plus qu'il y a ce qui se dit et aussi ce qui ne se dit pas. On appelle ça, dans notre jargon, le non-dit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler du non-dit plutôt que de ce qui se dit ? Eh bien, parce que le non-dit, ça parle. Ça parle même très haut et très fort. Le non-dit concerne les mensonges, les silences, les secrets de famille, par exemple. C'est même un des matériaux les plus importants utilisés dans l'option du travail psychanalytique. Retrouver ce qui n'a pas été dit et qui s'est, cependant, imprimé quelque part dans un coin sombre que l'on croit oublié et qui s'appelle l'inconscient. La mémoire de l'oubli, précisément. Et j'en viens là, parce que, dans ce domaine de la perte, de la mort, du deuil, il s'avère que le non-dit préside massivement aux échanges. Et ça n'est pas sans conséquences, et conséquences graves. En effet, pour parler de la mort, par exemple, on biaise, on va dire « il est parti, elle nous a quittés, il s'est éteint ». Car on attaque rarement de front les mots vrais de décès et de mort. Autrement dit, on a du mal à évoquer ce qui dérange, et la mort dérange. D'une manière générale, parler de la mort entre adultes et a fortiori avec des enfants, semble un exercice particulièrement difficile. Les proches, les amis, les enfants n'ont plus ce contact évident avec la mort, le mort, les veillées funèbres n'existant plus, et les rites mortuaires s'étant réduites à une peau de chagrin. Comme vous le savez, on meurt de nos jours massivement à l'hôpital. Plus ou très peu à la maison. Ça ne se passe plus comme autrefois, où il était évident de rester chez soi, entouré des proches. De nos jours, les proches sont loin et il faut avoir pratiqué la chose pour savoir combien il est compliqué, malgré les apparences, d'hospitaliser quelqu'un en fin de vie à la maison. Rien n'est réellement fait pour faciliter les choses dans cette option. Dans le contexte hospitalier, la mort est évacuée rapidement, comme non conforme à ce lieu censé délivrer du soin. On voit assez bien comment le corps médical peut se retirer de la scène lorsque la décision se prend de passer, par exemple, à du palliatif. Notre société hygiéniste ne supporte pas trop de s'arrêter sur ces temps du vieillissement, de l'agonie et de la mort, et les a transformés en tabous. Ils ne répondent pas aux nouvelles normes de jeunesse, d'hygiène, de surproduction de loisirs, de gadgets, de compétitions. Dans notre société, la mort est exclue de la vie. Elle fait désordre. On la cache. D'ailleurs, certains essayent de la faire reculer. On voit bien les tentatives de clonage, réfrigération, intervention de tous ordres, anti-vieillissement. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, non. Et tant mieux, parce que la vie ne va pas sans la mort. De fait, la vie serait intenable sans la perspective de la mort. Car pas d'humanité sans cette dimension d'acceptation de notre condition de mortel. Condition ingrate, sans doute, mais cependant enviable, comme le démontre le choix mythique d'Ulysse, qui, s'il pleure sur son statut de mortel, refuse cependant la proposition d'éternité de Calypso pour rentrer chez lui, à Ithaque, mourir auprès de Pénélope. Pour en revenir au langage, pourquoi les choses peinent-elles tant à se dire? Les raisons apparentes qui sont avancées consistent en général à vouloir épargner, à vouloir ne pas faire souffrir, à ne pas inquiéter, à vouloir protéger. Et c'est comme cela que sont faits les pires dégâts. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans les aménager ou déguiser. C'est une question éthique. En effet, quand vous ne dites pas à quelqu'un quelque chose qui le concerne, vous le dépouillez de ses choix, de son libre arbitre et de sa position de sujet. Vous occupez une position de toute puissance, de pouvoir, qui n'est pas saine. Chacun doit être libre de recevoir l'information qu'il souhaite dans ce qui le concerne personnellement. C'est un droit inaliénable. Sinon, d'un statut de sujet, la personne passe à celui d'objet, un objet de soin, comme on le voit encore malheureusement dans de trop nombreuses prises en charge médicales. Or, on doit à ce patient lui demander son avis, le faire participer activement aux décisions qui s'engagent. Ça paraît simple, et pourtant, ça se pratique très peu et très mal. Le silence, le midire, ceux qui le pratiquent pensent y trouver une protection, mais c'est une protection qui reste éphémère et qui paralyse le processus normal du deuil, de soi, en fin de vie, et du deuil des proches. Et cela peut revenir ultérieurement, pour eux, dans un syndrome de deuil pathologique, des années après, sous forme de symptômes extrêmement dérangeants. Mais alors, dire comment, ce qu'il en est d'un décès ou de son imminence. Et je n'aborde pas ici l'épineux problème de l'annonce d'un diagnostic qui concerne majoritairement le corps médical. Encore que. Il semble que la transparence et un souci de vérité soient les meilleurs guides pour des échanges constructifs. La mort doit être annoncée, y compris aux enfants, et même avant, quand c'est possible. Eux aussi doivent être prévenus de la maladie, de l'approche de la mort et du décès, quand il a eu lieu, en même temps que les adultes, sans différer pour on ne sait quelle raison, car autrement, ils percevront forcément les chuchotements, les silences, qui leur parlent à tue-tête et les inquiètent encore plus. Car le deuil se déclinera évidemment selon les modalités qui ont présidé au décès. Ce n'est certes forcément pas la même chose lors d'une maladie, d'un accident, d'un suicide ou d'un meurtre, on s'en doute. Je parle de meurtre, ce que je n'aurais pas forcément fait il y a encore quelques années, parce que malheureusement, cela devient une constante dans nos cabinets que de recevoir des endeuillés confrontés à la violence et à la folie. Dans la maladie, le deuil passe par un pré-deuil qui permet de se faire à l'idée et de s'inscrire dans la durée, surtout si les traitements sont longs, voire très longs, ou si l'on a affaire à une forme d'acharnement thérapeutique, ce qui est souvent le cas avec les enfants pour lesquels tout est tenté jusqu'à l'extrême. Un accident confronte les proches à du traumatisme lié tant à la brutalité de l'inattendu qu'à la violence de la réalité. Et là, pas de temps de préparation, mais un choc qui laisse des traces mnésiques sévères. Enfin, les suicides, s'ils provoquent les mêmes chocs que les accidents, se doublent d'un autre affect, celui de la colère, lié au vécu d'abandon qui s'installe systématiquement. Or, la rancœur et le sentiment d'injustice de l'abandon ne peuvent plus être formulés du fait de l'absence, comme s'il était impossible de critiquer un mort, alors qu'il est tout à fait nécessaire de pouvoir exprimer du ressentiment ou de l'agressivité quand ils surgissent. Et les enfants y sont sujets, tout comme les adultes. Aussi, est-ce à accueillir avec compréhension et tolérance. L'annonce du décès et les paroles qui sont posées dans les moments qui suivent auront à terme un impact aussi important que celui du décès lui-même. Ces mots-là ne s'oublient généralement pas. Et l'on ne peut que déplorer le manque de tact et d'à-propos qui se constate le plus souvent lors d'annonces faites par des mères, des secouristes, des soignants qui manquent cruellement de formation à cet égard. Ils ont peur de la souffrance qu'ils vont infliger et se font abruptes ou maladroits. Or, la souffrance ne peut s'épargner. Elle est le lot commun et doit être affrontée. Et je dirais, y compris pour les enfants. Si l'on cherche à les protéger de la souffrance, ils auront eux-mêmes des difficultés à y faire face dans leur vie d'adulte. Une erreur consisterait par exemple à dire aux enfants les plus jeunes cette demi-vérité d'un départ en voyage ou d'un retour aléatoire, en espérant que le temps et l'oubli espaceront les questionnements. Dans certaines familles, on n'emmène pas les enfants, surtout s'ils sont petits, au rite funéraire, parce qu'ils sont trop petits, ou que c'est trop dur, ou qu'ils ne comprendront pas. Eh bien, c'est dommage. Et Françoise Dolto, il y a déjà quelques décennies, grande clinicienne des enfants, incitait les parents à emmener même les nourrissons dans les bras de leurs parents aux cérémonies commémoratives. La crainte de dire les choses telles qu'elles sont se fonde sur la peur de l'autre, de sa réaction, de sa souffrance, de sa révolte. Et la peur, au final, d'éventuels retours négatifs. C'est ce qui préside le plus souvent à l'empêchement à dire même des choses simples dans la vie quotidienne, familiale ou professionnelle. On refoule de crainte d'être rejeté, de ne plus être aimé. Au final, en voulant protéger l'autre, c'est surtout soi que l'on tente de protéger. Il y a donc cet impératif de se protéger. Pourquoi ? Eh bien parce que le deuil est une perte de soi. Parce que perdre autrui, c'est perdre un peu de soi. Je vous lis une phrase extraite de « La porte des enfers » de Laurent Godet, qui est un très beau livre, qui dit la chose suivante. « En disparaissant, les morts emportent un peu de nous-mêmes. Chaque deuil nous tue. Nous en avons tous fait l'expérience. Il y a une joie, une fraîcheur qui s'estompe au fur et à mesure que les deuils s'accumulent. Nous mourons chaque fois un peu plus en perdant ceux qui nous entourent. » Et de la même façon, à la mort de François Mitterrand, il a été dit « Pleurer sur les autres est une façon de pleurer sur soi. Ceux qui sont partis emportent une partie de vous que personne ne vous rendra. » Et voilà donc de quelle part de nous s'agit-il. Dans la perte, il est question d'accepter quelque chose. Il existe une association pour les malades de cancer qui se nomme « Vivre comme avant ». Eh bien moi, cela me choque. J'entends bien le projet induit de réinsertion et de normalisation, mais il n'empêche que l'avant n'est jamais comme l'après, pas plus après un décès qu'après une maladie grave. Il s'est passé quelque chose et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il y a des conséquences et il vaut mieux les assumer que de les renvoyer aux oubliettes ou de les dénier. Sinon, ces conséquences se rappellent à votre souvenir au moment où vous vous y attendez le moins et pas toujours de la meilleure façon. Quand on parle de faire son deuil, je ne crois cependant pas que le mot soit adapté. On ne fait pas un deuil. Au mieux, on le traverse, on le vit. Faire aurait cette connotation que cela pourrait prendre fin. Ça ne finit pas. Cela se vit différemment au niveau des ressentis de souffrance. En particulier, la mort d'un enfant laisse une souffrance qui, elle, ne s'efface jamais, même si l'on arrive un jour à pouvoir vivre avec. C'est utile de le dire. Ce qui fait problème dans la perte, c'est précisément de l'accepter. C'est cela qui est le plus intolérable. Je m'explique. Il y a un renoncement à la santé, à la vie, à une habitude, à une relation ou à une possession. La perte et son apprentissage commencent très tôt pour le petit de l'homme qui perd le sein qu'on lui enlève après la tétée, puis que l'on va sevrer, et puis qui perd la présence de sa mère, qui s'en va vaquer à ses occupations, et puis le couche, ou pire encore, l'expédie à la crèche et puis à l'école. Aux pertes, l'homme s'y expose toute sa vie, durant les ruptures amoureuses, les licenciements, les déménagements, les maladies, les deuils, le départ des enfants devenus autonomes. C'est le lot de tout un chacun. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont chacun réagit à ce à quoi il est exposé, en surmontant le traumatisme ou en se laissant déborder par la souffrance psychique, ce qui est le propre de cette maladie tellement actuelle que l'on appelle la dépression. On en est d'autant plus atteint que la société évite de nous exposer à la perte et tente de combler le vide par un surcroît de plein. Les enfants et les adolescents n'ont plus cette habitude de composer avec du manque. Hein ? Faire avec le manque, c'est important et nécessaire. Les parents font erreur lorsqu'ils n'arrivent pas à dire non à leurs enfants, car, à force de tout avoir, ils en veulent encore plus, ne sont jamais satisfaits et ne peuvent plus faire face à la frustration. Or, cela s'apprend, comme dans toute éducation bien menée. Lorsqu'on dit non à un enfant, il trouve une limite à sa toute-puissance, à sa volonté de petit sujet. Il en a besoin pour pouvoir ensuite s'accrocher à des valeurs, à des règles, à des positions d'éthique. L'accès aux règles de l'apprentissage, par exemple, la lecture, l'écriture, la grammaire, en sont partie prenante. C'est une loi à laquelle chacun est soumis, que l'on appelle en psychanalyse la loi de la castration. Cela revient à dire non sur les petites choses et les choses moyennes, parce que l'on sait d'instinct dire non à la plus grande, non à l'inceste. L'inceste est l'interdit le plus fondamental qui régule la société humaine. Selon comment cette loi est intégrée, se déclineront les capacités à dire non à la jouissance et à transmettre cet interdit aux générations suivantes. Quand et où cela se situe-t-il ? Eh bien, très vite, dès que la petite fille devient amoureuse de son père ou le petit garçon de sa mère. Cela se produit vers 2-3 ans. On l'observe très bien, n'est-ce pas, dans les comportements enfantins. De là, et suivant la réponse qui est faite, naissent les capacités à s'identifier pour la fille à la mère, pour le garçon au père. La réponse parentale, une fin de non-recevoir dans le meilleur des cas, indique à l'enfant que son amour pour un adulte est interdit. Et c'est parce qu'il est posé comme tel que l'enfant devenu adulte pourra tourner son désir et sa libido vers un autre adulte de sa génération. Sinon, son accès à une sexualité risque d'être bien compromis. Et cette pulsion du tout petit enfant et son déroulement logique correspondent à ce que l'on nomme la traversée du complexe d'Œdipe, dont vous avez peut-être entendu parler, comme étant au fondement de la constitution psychique de l'enfant. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? parce que tous ces interdits ont un bénéfice à long terme, celui de permettre à l'enfant de devenir autonome, de ne pas rester collé à sa mère dans une relation fusionnelle qui l'empêcherait de grandir dans un équilibre psychique fondamental. Le père est généralement là, si la situation parentale est saine, pour lui frayer cette voie, le séparer de la mère et de cette relation fusionnelle du nourrissage, lui montrer la voie de l'individuation et l'inscrire dans son avenir de sujet apte à la rencontre de l'autre sexe, donc dans sa vie future d'adulte. C'est en ça qu'il intervient comme père castrateur, introduisant la loi en tant qu'elle sépare et par là même l'accès au symbolique. Ce passage, cette traversée, si elle n'est pas trop chaotique, permet de renoncer aux désirs propres à l'enfance et plus exactement aux désirs pour le parent de sexe opposé. Et ça permet à l'enfant d'accéder ainsi à une acceptation, plus ou moins réussie, de la frustration et de la séparation. L'enfant est entré dans la loi, en pliant aux exigences de la société, dont celle de l'interdit de l'inceste. S'il accepte et entérine à son tour cette coupure avec son passé de toute puissance infantile, où la fusion est illimitée, il entre dans la chaîne de la transmission humaine et sera mieux armé pour les pertes à venir. L'Œdipe est en relation avec la castration. La castration est en relation avec la perte et la coupure. Ce postulat de la théorie freudienne n'est pas prêt d'être démenti. La psychanalyse travaille beaucoup sur les ravages produits par des réponses de parents insatisfaisantes. Selon comment se traverse cette étape de la vie et selon comment s'est opérée cette coupure symbolique avec une jouissance infantile, l'enfant pourra, ou non, se construire sur une structure psychique saine et solide. C'est cette structure qui lui permettra de faire ensuite face aux coupures de sa vie et à la perte, non seulement des autres, mais aussi de la sienne propre, de sa vie, c'est-à-dire de sa propre confrontation à la mort, la sienne. Après cette explication sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure si vous avez des questions, je vais en revenir au deuil. Pour tous, enfants, adolescents, adultes, le deuil est une rupture, une coupure entre un avant familier et un après inconnu. Cela fait peur. Peu de gens y sont préparés ou s'y préparent en réfléchissant au cœur de leur intimité à ce que représente la mort tant pour eux que pour leurs proches. Les capacités de chacun sont là, mises à l'épreuve et souvent durement. En effet, lorsque l'on perd quelqu'un, on perd avant tout un futur qui ne se vivra pas. Et évidemment, avec la perte d'un enfant, cet avenir se profilera comme long par définition, puisque nos enfants sont censés nous survivre. À ce sujet, dans un film, Clint Eastwood faisait cette remarque qu'il n'était pas bien de tuer un homme, non pas tant parce qu'on lui ôtait la vie, que parce qu'on le prive de son avenir et que personne ne peut s'autoriser pareil pouvoir. C'était la position de Robert Badinter, à partir de laquelle il a lutté pour la suppression de la peine de mort. Le respect de la mort va de pair avec le respect de la vie. Vivre un deuil consiste à pouvoir affronter la séparation et la mort de celui auquel on est attaché. Mais de là découle aussi la possibilité de faire face à son chemin personnel d'être humain, définitivement seul, face à lui-même et à sa mort. De savoir de quoi l'avenir sera inéluctablement fait, créer notre spécificité d'être parlant, forcément de ce fait soumis à l'angoisse. Certains peuvent se le dissimuler sous de la bravoure factice ou de l'hyperactivité. D'autres s'y refusent en maintenant ce qui les dérange dans les abysses du refoulement. Cette impasse peut aussi se dérouler sous le signe de la dépression, de la mélancolie ou même du laisser-tomber, du suicide. L'option du face-à-face avec la vérité suppose des sujets debout, aptes à gérer la peur du lendemain et de l'inconnu, ou pour le moins sachant se relever après l'épreuve. Ne pas parler d'un défunt, d'un décès, génère des situations de non-dit et signe une grave difficulté à se construire sur de la réalité. Cela peut créer des deuils pathologiques interminables que l'on retrouve dans nos cabinets. Donc, je vais vous dire quelques mots sur l'importance de l'accompagnement. J'entendais récemment, lors d'un débat à la radio, une collègue s'insurger contre ce fait que de nos jours, on accompagne tout le monde, tout le temps et partout. Et elle remettait en question précisément l'accompagnement du deuil comme lui paraissant une hérésie, dans la mesure où le deuil est une épreuve normale que tout un chacun doit être en mesure de traverser. Ce n'est pas faux. Il est vrai que les accompagnements, on en voit beaucoup, depuis ceux des handicapés, en passant par les SDF, jusqu'aux sinistrés de toutes les calamités que la planète subit. En même temps, il lui était répondu que certains sujets ne sont pas à même de traverser seuls des épreuves trop violentes et qu'il convient peut-être de les prendre en charge plutôt que de les voir devenir des poids pour la société, voire la sécurité sociale. Quel peut être l'intérêt d'un accompagnement? Quand est-il nécessaire et pourquoi? Tout d'abord, il faut souligner que les parents, certes, font des enfants, c'est somme toute assez simple, et porteurs de pulsions de vie. Mais rarement, et peut-être heureusement, ils se penchent sur cette idée assez dérangeante que quand on donne la vie, on donne aussi la mort. Bien évidemment, la mort en son temps, celui de la vieillesse, ce qui est de loin le plus acceptable, c'est-à-dire en fin de parcours et le plus tard possible. Mais cette vie peut s'interrompre aussi prématurément, on le sait, on le voit, et il faut pouvoir faire avec. D'autant que de nos jours, avec l'allongement de la vie, des parents voient leurs enfants, eux-mêmes déjà adultes, voire âgés, mourir avant eux. C'est une nouvelle donne de notre société avec laquelle nous allons être amenés à faire. Les directeurs, par exemple, de maisons de retraite me parlent désormais de cette situation très nouvelle pour eux, d'accueillir plusieurs générations d'une même famille dans le même établissement. Lorsque la chronologie s'inverse, il y a un malaise, parce que ça ne va pas dans le sens normal des choses. Les sujets qui partent au cours de leur enfance donnent à voir qu'ils n'ont pas parcouru leur vie telle qu'on pourrait l'espérer. Et pourtant, on peut aussi considérer l'inverse, qu'une boucle se ferme sur elle-même et qu'il y a un sens à ça. Ce sens appartient à celui qui s'en est fait porteur, et les proches n'y ont pas forcément accès. D'autres solutions consistent à imputer la causalité à un système de croyances religieuses, par exemple, et à pouvoir s'en faire par là une raison d'acceptation et de tolérance. Les croyances religieuses sont aidantes, à l'évidence, pour ceux qui en bénéficient. Le deuil est un temps, celui d'accepter la perte. Il ne peut ni être raccourci, ni être évité. C'est un travail à part entière qui entame, voire épuise le psychisme. Cela ne va pas de soi, car l'inconscient ne reconnaît pas la mort. De plus, il se constate, et beaucoup d'entre vous ont dû en faire l'expérience, que les proches ou les amis ont une certaine tendance à s'éloigner, voire à disparaître, quand les choses deviennent trop dures, trop longues, trop angoissantes. Ce peut être la violence d'un choc, la durée d'une maladie, ou encore l'étirement de ce vécu du deuil qui ne se dissout pas à la vitesse des impératifs de notre société de consumérisme. Les réactions paraissent souvent inappropriées, des donneurs de conseils en passant par ceux qui vous culpabilisent d'être encore et toujours dans la souffrance. Ou pour le dire autrement, les gens en ont vite assez de vous écouter ressasser votre souffrance et ils fuient. Et comment cela se fait-il ? La mort des uns fait ressurgir la mort de soi, sa propre mort en filigrane. Et c'est tellement insupportable qu'ils préfèrent ne pas s'y confronter en restant à vos côtés, à vous soutenir. C'est paradoxalement un choix de survie. Donc, l'accompagnement vise à combattre l'isolement et la solitude. Lors d'un deuil, se joue un phénomène de modification des places de chacun et un déséquilibre, passager ou pas, s'ensuit automatiquement. De ce fait, il est important de faire repérer à un sujet quelle part de lui disparaît face à une disparition. Car il n'y a pas que le défunt qui disparaisse. Il y a le statut, la place que l'on occupait soi face à lui. Par exemple, sa place de parent, ou sa place de frère, ou de sœur, ou de partenaire. Et là, quelque chose se perd qui ne reviendra pas. De surcroît, on n'existe plus non plus dans le regard de l'autre, car on se voit exister dans le regard de l'autre. Et si ce regard s'éteint, une part de nous s'anéantit. Cela paraît évident, mais c'est important à considérer, car cette perte-là est souvent la plus douloureuse. Et faire la lumière sur les mécanismes des relations, échanger, pouvoir en parler, permet de réinjecter un peu de sérénité. Les psychothérapies, les groupes de parole, les adhésions à des associations, les échanges peuvent être des solutions d'aide et de soutien. Il est préférable d'éviter la solution des médicaments si vite prescrits qui ne font qu'occulter le processus du deuil et empêchent qu'il se traverse. Un deuil ne peut se faire dans le forçage ou l'éviction, et encore moins dans l'anesthésie du sujet que mettent en place ces types de traitements. Quand les choses ne sont pas vécues dans le cadre d'un processus de chagrin et de deuil, se créent des deuils à prolongation dont il est ardu de sortir. Un accompagnement professionnel, même ponctuel, peut permettre que se désamorcent ces mécanismes. Une parole qui circule amène toujours plus de soulagement qu'un silence qui conduit au refoulement et au blocage. On peut concevoir qu'il soit une hérésie, que de vouloir mettre de l'accompagnement partout, puisqu'avant, les gens vivaient et survivaient sans tous ces protocoles. Mais il y a à considérer que le lien social était autrement mieux tissé, les familles soudées et la vie rurale plus humaine. Dans le registre professionnel, les décès sont une telle agression que nous sommes souvent sollicités par des équipes soignantes pour exercer auprès d'elles ce que l'on appelle des supervisions ou des contrôles de pratique, des groupes de parole, c'est-à-dire des moments d'écoute de la souffrance que ces soignants rencontrent au cours de leur pratique quotidienne. S'occuper des endeuillés suppose d'être très ouvert à ce qu'ils vivent et traversent, sans jugement préconçu ni projection personnelle. Il s'agit davantage de les écouter que de conseiller ou de répondre. Il s'agit aussi de ne pas régler dans ses prises en charge ses propres impasses par rapport à la mort, comme on le constate parfois chez les accompagnants bénévoles, par exemple en soins palliatifs. Car il ne s'agit pas de régler ses propres souffrances à travers la souffrance des autres. Dans ce domaine de la fin de vie, beaucoup de paramètres sociaux sont en train de changer. On voit de plus en plus de gens, actuellement, refuser un acharnement thérapeutique et faire ce choix, courageux, de laisser les étapes se traverser vers la fin sans plus vouloir d'intervention surmédicalisée. La demande la plus pressante consiste en un soulagement de la douleur, une gestion plus paisible de la fin de vie où puissent encore se partager les derniers mots, les dernières décisions. Mais au-delà, on voit aussi, en particulier dans certains cas de tumeurs de cerveau ou de grande dépendance, par exemple, se dessiner une autre tendance, celle de vouloir mourir consciente à soi-même. Prendre la décision avant qu'il ne soit trop tard et tant que l'on est encore en mesure de décider des limites au-delà desquelles on estime ne pas devoir aller. Et cela se veut une décision épineuse. Car on n'est plus là, en effet, dans le domaine de l'euthanasie passive et légale, avec arrêt des traitements, mais bien dans celui très spécifique et étroit d'une assistance à sa propre mort. Ce dilemme, car c'en est un, ne se donne pas à trancher en France, où la législation y voit un crime puni par la loi. Mais il commence à agiter les consciences et les débats, afin que des propositions soient faites en matière de législation. C'est une lutte de longue haleine que s'efforcent de mener des pionniers, dont certains sont fortement médiatisés suite à leur parcours. Il ne s'agit pas, là, de faire l'apologie de ce qui n'est d'ailleurs pas érigé en méthode, en système, ni en règle, mais simplement de signaler que cela existe et que c'est possible. Cela se fait en Suisse et cela commence à se savoir. Et le grand public s'interroge et évolue dans une réflexion qui concernera un jour ou l'autre tout un chacun. La pression se fait plus intense sur les législateurs et ces débats montent au devant de la scène. La demande, même si elle se voit encore opposer une fin de non-recevoir, se fait de plus en plus insistante. Le suicide assisté va devenir pour notre société un enjeu important à traiter, en particulier du fait du vieillissement de la population. On peut d'ailleurs se demander si ça ne sera pas davantage une question de gestion budgétaire qu'un débat éthique. La société évolue aussi en fonction des changements de la prise en charge médicale et de ses progrès, et d'autres exigences surgissent, comme de vouloir mourir sans souffrir et de mourir à son heure, et en faisant des choix qui vous appartiennent. Et la psychanalyse, dans tout ça, pour finir, qu'est-ce qu'elle pense de cette façon d'oser être soi-même et de tenir tête à l'établissement moral, social, paramédical, médical? Eh bien, elle cautionne les sujets qui se soutiennent de leur désir, le désir au sens de la pulsion de vie, au sens de cette volonté qui permet de vivre en accord avec soi et avec ses choix. La psychanalyse considère que s'il reste quelque chose au-delà de la perte, c'est la richesse du désir, à condition d'avoir été en mesure de ne pas passer à côté, à condition de ne pas avoir cédé dessus par lâcheté ou crainte. Alors, on est riche de son désir, même quand il ne reste plus rien d'autre. En résumé, elle dit qu'on est libre de ses choix à tout moment, et donc que tout acte engage soi et accessoirement autrui. Elle dit qu'un sujet doit savoir ce qu'il en est de son désir et qu'ainsi, il sera capable d'assumer ses actes et leurs conséquences sans s'en référer à un autre qui saurait pour lui. Elle dit que ce n'est pas la faute de l'autre si une vie se transforme en destin et qu'il est important de regarder en détail en quoi on est pleinement acteur de ce qui nous arrive. Elle dit aussi qu'un sujet peut faire fi de ses déterminations, de ses déterminismes et prendre une voie qui lui appartienne. Elle dit qu'un sujet est toujours à même de changer de vie, de cap, d'orientation et de mettre son désir aux commandes. Rien n'est irréparable ou irréversible, sauf en effet peut-être évidemment de se diriger vers la mort. Mais même en ces circonstances, quand le chemin se termine, la manière dont se parcourent les derniers pas est encore un choix donné à chacun pour y mettre sa marque, sa trace, son style. Jusqu'au bout, il est possible de préparer, de réparer, de faire acte de sujet et de partir en accord avec soi. Les personnes qui font appel à l'autodélivrance ne remettent pas forcément en cause ce qu'a été leur vie, ni ne s'interrogent sur le pourquoi de leur maladie quand elle les entraîne à mourir avant l'âge. Mais elles ont décidé que pour elles, il en serait ainsi, qu'elles seraient présentes à elles-mêmes jusqu'au bout, léguant à leurs proches le souvenir d'un exemple d'autonomie et de liberté subjective. Cette transmission, pour ceux qui la reçoivent, interroge, bouscule, imprègne, mais elle met du sens dans un acte définitif, en pointant que chacun est maître de sa vie jusqu'au bout, et que de le savoir et de pouvoir le dire donne un sens au fait d'être un humain. Offrir à autrui, et à quel prix ? L'exemple d'une prise de responsabilité, l'exemple du choix du sujet, n'est-ce pas d'une certaine manière construire du lien familial, du lien social ? À l'inverse, ne rien vouloir en savoir, vivre dans l'illusion, ne pas s'occuper de spécifier ses dernières volontés d'inhumation, d'héritage, de don de ses organes ou pas. Voilà une façon de rester dans l'imaginaire et dans une position de toute puissance. ce sont malheureusement les proches qui en seront pour leurs frais à devoir prendre des décisions qui n'auraient pas dû leur incomber. Vivre la perte, ça n'est donc pas l'éradiquer et faire silence, mais la regarder en face et pouvoir construire dessus un enrichissement qui nous permette de continuer à transmettre aux générations suivantes notre capacité à vivre et notre capacité à mourir. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au débat, discussion, questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Il est là. On a une heure, je crois, pratiquement devant nous, donc n'hésitez pas.
C'est un petit peu difficile. Hein, de,
oui, toujours de démarrer. Oui, surtout après des sujets comme ça qui laissent... qui donne à réfléchir forcément.
Je vous remercie déjà pour l'intensité.
Merci. Et puis qui remue, et puis qui émeuve, et qui font ressurgir des choses forcément pas faciles. On le sait bien. Mais enfin bon.
Alors, il va falloir sortir un petit peu de cette qualité de silence qu'il y avait dans la salle pour peut-être réagir.
Est-ce que certains d'entre vous ont des expériences personnelles qui, par rapport à ce qui a été dit, puissent faire écho ou... Oui ? Vous vouliez dire quelque chose ? Oui ? Non ? Oui ? Attendez, on va vous donner un micro.
Ça me gêne beaucoup de parler au micro.
Je vous en prie.
Je voulais juste dire que ce que vous avez dit, c'est d'une densité très, très profonde et que malheureusement, on n'arrive pas à tout retenir. Enfin, voilà.
Oui,
et que j'aimerais avoir je ne sais pas si ce veut le texte de votre intervention.
Je ne sais pas, mais d'après ce que disait le technicien tout à l'heure, ça va être enregistré sur Internet, c'est ça ? Sur le site de l'espace d'ici.
Ah, très
voilà.
Bien.
Donc, vous avez tout le... tout le défilé de la conférence, mais je peux laisser le texte aussi si les responsables veulent faire des photocopies.
Oui. Sinon, je voulais dire que j'étais très touchée et intéressée par tout ce que vous avez dit sur cet élargissement du phénomène de la perte. C'est un domaine très important qu'on a à travailler sur soi tout au long de sa vie.
Oui.
Voilà, c'est ça. Enfin, bon, vous l'avez dit beaucoup mieux que je le dis.
Tout à fait. Non, c'est important de le préciser aussi, parce que moi, j'ai beaucoup parlé de la constitution du sujet et de ses capacités à faire face à la perte en fonction de comment se traverse l'enfance, l'éducation, etc. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, quoi qu'on ait reçu, qu'il ait été transmis, puisqu'on est tous déterminés par... notre milieu, notre éducation, ce dans quoi on est, ce qui nous est transmis par les générations précédentes, il n'empêche que, c'est ce que je disais à la fin, chacun est libre de ses choix et toute sa vie peut remanier, restaurer, réparer et réfléchir sur ses propres choix. C'est en ça que c'est une certaine liberté. On est déterminé, mais on a toujours le choix. C'est une règle fondamentale de la psychanalyse. C'est-à-dire, on ne peut pas, comme on le voit tout le temps dans la société, vous interrogez, n'importe quel gendarme, il vous dit, dès que j'arrête un automobiliste, il me répond, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Bah oui, enfin, en attendant, il est arrêté parce qu'il y a des raisons. Moi, j'ai une fois, ça me fait repenser à ça, une patiente qui était sur le divan. Comment c'était venu, je ne sais plus trop. Et à un moment, elle était en train de parler de ce qui lui avait fait problème. Elle cherchait la cause, etc. Et elle me dit, mais de toute façon, ce n'est pas de ma faute. J'y peux rien. Et puis au pire, pour abonder dans votre sens, c'est de la faute de mon inconscient. Et je lui dis, mais votre inconscient, c'est le vôtre. Hein? Mais bon, voilà. c'est toujours la faute des autres, mais on est responsable de ses choix. Oui, il y a un monsieur à gauche.
Oui, est-ce que vous avez quelques informations concernant la position du corps médical ?
Par rapport à quoi ?
Par rapport à la fin de vie désirée par les au dernier moment.
Oui, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'association Exit en Suisse, hein, qui prône cette assistance au suicide. Mais au-delà de ça, puisque ça, c'est pas vraiment en question, puisque en France, la question ne se pose pas légalement. Mais le corps médical, c'est pas que je sois au courant de comment il considère les choses. C'est que dans mon travail de supervision, par exemple, auprès de soignants, auprès d'équipes médicales en soins palliatifs, il se constate que les mentalités n'ont pas beaucoup bougé, qu'un patient est toujours un objet, qu'on décide à sa place, qu'on ne lui donne pas forcément le diagnostic, qu'il n'a pas forcément, et à l'inverse de ce qui est stipulé par la loi, accès à son dossier, qu'on ne lui donne pas son avis sur les décisions et les traitements qui vont être pris, qu'il n'est pas partie prenante de ce qui lui arrive. Et donc ça frôle encore souvent l'acharnement thérapeutique. Et pour tout ce qui consiste en, par exemple, les dernières comment on appelle ça, directives anticipées, vous avez quantité de, je le vois, je l'entends tous les jours, quantité de généralistes qui ne veulent pas en entendre parler. Et alors, je vous assure qu'on est loin du choix de sa propre mort, malheureusement. Ce qui est un paradoxe, parce que finalement, vous avez le droit toute votre vie d'arrêter votre vie. Hein, le suicide n'est pas interdit par la loi. Il fut interdit par la religion fort longtemps, encore un peu maintenant, mais moins. Mais il s'avère que quand vous n'avez plus vos capacités physiques suite à une paralysie ou un syndrome du cerveau ou n'importe, ou que vous êtes trop handicapé pour pouvoir parler ou dire ce, ou trop mal ou dans le coma, eh ben voilà, vous n'avez plus droit là, à dire ce que vous voulez pour vous. Et de toute façon, quand vous le dites, c'est pas pris en compte, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de travail à faire dans les associations pour faire évoluer tout ça. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui se battent aussi.
En fait, c'est une sorte de sentiment de supériorité que cultive le milieu médical.
Je ne sais pas si c'est un sentiment de supériorité. On peut pas, c'est pas forcément à dire comme ça, mais c'est que ils ont l'habitude, ils ont été formés comme ça, d'avoir ce pouvoir qui est symptôme traitement, hein, mais jamais symptôme pris dans la globalité d'un individu et avec cette dimension de plus que nous on instaure, par exemple, hein, en tant que thérapeute psychanalyste, de qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait que telle maladie, tel suicide, que les choses deviennent ce qu'elles sont ?
J'ai été très étonnée par les mots que vous avez utilisés pour le suicide assisté.
Oui.
Pour la bonne raison que j'ai suivi mon frère pour son suicide en Suisse, assisté en Suisse.
Oui, mais pas avec Exit alors.
Non, avec un autre.
Oui.
Attendez,
mais vous pouvez l'expliquer peut-être, parce qu'il y a effectivement une autre association en Suisse, oui. Qui à travers un système payant, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Ah oui, pourquoi Exit ne l'est pas ?
Exit, non, Exit c'est gratuit, mais Exit d'accord. Ne fonctionne exclusivement
pour la
que pour les résidents suisses. Hein, voilà. Oui. Donc c'est une assistance payante,
oui.
Mais qui fonctionne, oui, oui, on le sait.
Oui, oui.
Alors, oui, racontez-nous.
D'abord, je vais dire mon étonnement, c'est que vous utilisiez exactement les mêmes termes que mon frère quand il m'a fait écrire ces derniers mots, puisqu'il ne pouvait plus écrire.
Oui.
Autonomie, mettre du sens, être humain, être debout.
Mm-mm.
C'était exactement pareil.
Ben merci. Oui, oui, continuez.
Donc j'ai été très étonnée d'être acteur de sa vie jusqu'au bout.
Oui. Mais je crois que les gens un peu jeunes
oui.
qui se confrontent à des situations comme ça, pour certains, réfléchissent beaucoup.
Oui, 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 bien sûr.
Et ça les... moi, et... moi, je vois, je traite des jeunes maintenant, hein, des jeunes adultes qui ont des cancers. Des jeunes de 25 ans, 35 ans, qui m'expliquent, c'est tout à fait... Bon, ceux qui viennent hein, chez moi, c'est, ils ont déjà fait un chemin, ils ont pris la décision de faire une analyse, etc. C'est déjà particulier. Hein. Mais ils m'expliquent combien ils sont, même guéris, enfin en rémission, tout ce qu'on veut, hein, quand la maladie est éradiquée, si on peut dire, combien ils sont décalés par rapport aux jeunes de leur génération, combien leur confrontation à l'angoisse de mort, à la maladie, à la souffrance, aux autres malades dans les services hospitaliers, les a amenés à une autre façon de fonctionner qui est totalement décalée par rapport à ce que vivent leurs amis, leurs copains, leurs collègues, voilà, qui ne sont pas du tout dans cette mouvance et dans cette réflexion. Mais il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, moi je me souviens d'avoir reçu un jeune homme, moi j'habite à Osgore, et d'avoir reçu un jeune homme qui était enrôlé et qui faisait la guerre en Yougoslavie. Et il rentrait en Perm au mois de juillet, août, c'est-à-dire au moment où la saison bat son plein. Et il passait de ce qui se passait en Yougoslavie, qui n'était pas triste, au bikini, hein, aux copines en bikini sur la plage, quoi. Et il n'y arrivait pas. C'était pas conjugable. C'était pas possible. Le décalage était tellement énorme. Bon, enfin, c'est ça se voit de manière récurrente pour tous les retours des soldats qui ont.
Ça doit être très vrai, je pense, pour les soldats, c'est évident. Mais c'est aussi vrai pour les, enfin, en tous les cas, pour moi qui ai perdu de la famille assez jeune, qu'on est complètement décalé au collège, qu'on a perdu à cet âge-là, on est vraiment dans un autre monde.
Alors maintenant, je vois ça peut-être parce qu'il y a des psychologues scolaires dans les établissements, ou je sais pas, ou que les enseignants sont plus interpellés par ce qui se passe. Mais on voit beaucoup de suicides d'enfants, on voit beaucoup de meurtres ou d'accidents. Bon, ça a toujours été, ou de maladies chez des parents jeunes. Et les enfants commencent en fait, les enfants parlent, eux. Hein, ce sont nous, les adultes, qui, le plus souvent, les enfermons dans une forme de silence. Parce que ils ont plutôt cette spontanéité à dire les choses, à poser des questions. C'est les adultes qui ont du mal à s'inscrire dans un échange avec les enfants.
Pour finir, pour le suicide assisté, ce qui était extraordinaire, c'est sa joie à mon frère quand il s'est suicidé, en fait.
Oui, enfin, il faut expliquer quand même peut-être comment ça se passe.
Comment ça se passe ? C'est un dossier qui est monté des mois à l'avance, ou même des années à l'avance, au fur et à mesure de la maladie.
Oui.
Logiquement, on doit aller deux fois en Suisse.
Oui.
Mais si la maladie est trop avancée et que la personne ne peut pas se déplacer, on n'y va qu'une seule fois. Et dans ce cas-là, on a plusieurs rendez-vous avec un médecin. Parce qu'il doit y avoir plusieurs...
C'est très réglementé.
Voilà, c'est extrêmement réglementé. S'ils ne suivent pas le règlement, ils peuvent aller en prison. Donc, s'ils suivent vraiment
tout à
le
fait.
Règlement. Donc, on voit plusieurs fois le médecin.
Des accompagnants, des psychologues souvent.
Non, là, il n'y avait pas de psychologue, c'était l'association, mais tous les gens de l'association en fait étaient concernés, avaient vécu ça. Et puis le jour, on peut bien sûr que la personne peut dire non jusqu'au dernier moment. C'est évident qu'elle peut changer d'avis, ça, ils vous mettent à l'aise.
Tout à fait.
Comme quoi, ça ne les gêne absolument pas, parce qu'on peut se croire un peu coincé, surtout le jour J, je dirais. De plus pouvoir dire non, on peut dire, et puis on le sent qu'il n'y a pas de souci. Hein. Le jour où on y va, pour le suicide assisté, donc on est accueillis dans un appartement, il y a plusieurs pièces où on discute, et c'est bien sûr la personne qui va se suicider qui a le tempo, en fait, qui dit à quel rythme que ça va.
Oui, et surtout qui consomme le breuvage elle-même.
Il y en a deux. Il y a un premier qui permet de ne pas vomir, le deuxième. Donc ça met dans l'ambiance, on va dire.
Oui.
On sait que quand la personne dit bon allez je prends le premier, c'est que déjà on est passé à autre chose.
Non mais ce que je voulais dire comme nuance, c'est que c'est la personne qui je sais pas comment dire le qui boit enfin qui
ah oui c'est obligatoire
qui filmé. Boit elle-même c'est-à-dire que personne n'est habilité à faire boire.
Bien sûr. Hein, et c'est filmé, important comme geste. C'est obligatoire que ça soit filmé et en plus faut que la personne parle devant la caméra pour dire que c'est bien elle qui le désire. Donc c'est assez drôle, enfin si c'est drôle parce qu'on est dans une situation dans
très particulière,
très ouais. particulière ouais. Et on a ri parce qu'il riait de ça oui. et on a ri. Je suis désolée,
oui,
mais la mort,
non, non, mais c'est relativement
ça fait bizarre à certaines
personnes. C'est récurrent, c'est-à-dire voilà. que c'est la fin d'un long cheminement. Donc le cheminement, il a eu le temps d'être réfléchi, voilà. d'être assumé, d'être abouti.
C'est pas un rire gai, c'est sûr, mais c'est un rire. Bon, lui, parce qu'il est arrivé au bout et qu'il a réussi, il avait très peur. Il pleurait jusqu'au dernier moment s'il avait très peur de ne pas pouvoir être trop paralysé pour pouvoir le faire.
Mm-hmm. Oui, donc, puis ça suppose un certain courage quand même. Hein.
Donc, d'être là, de ne pas être paralysé, de pouvoir faire les gestes, ça voulait dire qu'il avait réussi.
Oui.
À la limite, qu'il avait réussi sa vie, parce que
oui,
réussissait
bien sûr.
Mm-hmm. C'est à peu près ça. Donc, il y a le premier breuvage qui me semble important pour moi, qui a été important pour moi, parce que pour éviter de vomir et qui veut dire bon, bah, ça y est, on y va. Oui. Et après, on a à peu près une heure pour prendre le deuxième. Mm. Alors, s'il dit je veux pas, je veux revenir demain, il le fait, bien sûr. Mais s'il veut aller jusqu'au bout et pas avoir à s'y remettre, bah, il n'y a plus qu'une heure, quoi.
Oui.
Et ensuite, on passe dans une autre pièce. Parce qu'on ne va pas le faire debout pour boire le deuxième breuvage. Il tomberait par terre, on ne va pas le faire assis, donc il le fait allongé. C'est plus pratique, quoi. C'est une question de pratique.
Bien sûr.
Donc ça allonge et il y a le deuxième breuvage. Et juste avant le deuxième breuvage, bon, c'est la caméra, c'est dire devant la caméra qu'on le fait soi-même, sans être obligé, enfin, etc. Faire un petit discours en buvant. Et puis voilà.
Moi, j'en ai beaucoup discuté avec le docteur Sobel, qui est le président d'Exit, et les accompagnants de cette association, qui disent que, c'est pas curieux d'ailleurs, ça paraît logique, que les proches, à partir du moment où ils adhèrent et où ils valident cette décision, sont dans des deuils extrêmement constructifs et positifs.
Oui. Oui, je crois, j'ai l'expérience de plusieurs.
Il n'y a pas de dépression, par exemple, c'est rarissime.
Enfin, c'est différent, c'est un deuil complètement différent. J'ai eu plusieurs frères qui sont morts, donc je peux comparer, on va dire. Donc celui-là, c'est un deuil. J'ai quand même une déprime, enfin, et des problèmes respiratoires, parce que je suis asthmatique, après, mais c'était complètement différent. C'est beaucoup plus rapide, je dirais, enfin, pour moi. Le travail du deuil est beaucoup plus constructif.
Oui.
C'est complètement différent.
Voilà, parce qu'il y a une acceptation de la décision de l'autre.
Parce qu'il y a une préparation, il y a un travail qui est long. La première fois où il fallait que je fasse les lettres pour monter le dossier, parce qu'il ne pouvait plus écrire, c'est très dur. On essaye de se dire que bon, ça ne servira jamais. Et puis, progressivement...
Oui, c'est ce que dit le monsieur, c'est accepter la volonté de l'autre.
Et c'est tout à fait ça.
Et finalement,
moi, je voulais
ça
pas,
aide.
Mais c'était son choix.
Oui, et ça aide de le prendre en compte.
Par contre, autant j'ai accepté, parce que c'était son choix, c'était son désir à lui, et c'est pas parce qu'il était paralysé que j'allais faire autrement, quoi.
Bien sûr.
C'était mon frère, je l'aimais, donc j'allais pas aller contre son désir. Mm-hmm. Hein. Il aurait eu ses deux mains pour écrire, il l'aurait fait. Mm-hmm. Donc j'étais juste son stylo, quoi.
Oui.
Donc, j'allais pas passer outre, je me voyais pas.
Mais il y a des familles qui s'opposent, hein.
Bien sûr.
On le voit.
Bien sûr, mais je ne l'ai pas fait.
Ça fait des problématiques énormes dans les familles, justement. Enfin, en Suisse, en l'occurrence, puisqu'ici, ça ne se pose pas.
Oui. Mais par contre, après, quand je suis partie, c'est vrai que mon mari, bien sûr, était au courant, mais mes enfants, pour eux, je partais en voyage avec mon frère. Bon, je ne savais pas s'il allait revenir ou pas, d'ailleurs. S'il aurait pu changer d'avis au dernier moment, on ne sait jamais. Puis on espère toujours, on ne sait jamais quoi. Mais au retour, c'est vrai que je ne leur ai pas dit qu'il s'est suicidé. Je trouvais ça trop compliqué.
Pourquoi ils ont quel âge?
Ils avaient 8 et 10 ans.
Parce qu'il suffit de trouver les mots appropriés. Hein.
Oui.
Moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une jeune femme qui était venue pour sa petite fille qui avait, 5 ans, 5-6 ans. chute scolaire, énurésie, enfin bon, tous les symptômes en masse, suite au décès de la tante de cette petite fille, dont la sœur de la maman, hein, qui était une jeune femme, donc très ennuyée par les symptômes que développait sa fille. Donc j'ai sondé un petit peu qu'est-ce qu'il en avait été de la mort de cette tante. Et donc elle m'explique que cette tante s'était suicidée par pendaison, dans le grenier familial, un truc comme ça. Et donc, il avait été dit à la petite fille qu'elle était morte, ça c'est sûr, mais il lui avait été dit qu'elle était tombée d'une échelle, ce qui est absolument vrai, puisqu'elle a pris une échelle pour se suicider. Mais c'est absolument faux aussi, parce qu'il y a la moitié des choses qui n'ont pas été dites. Et donc, on a fait tout un travail avec la maman qui ne pouvait pas verbaliser ça, pour qu'elle finisse par dire les choses exactement avec les mots adaptés à la petite fille. Et du jour où ça a été dit, il n'y a plus eu de symptômes. Et là, bon, ça s'est réglé parce qu'elle est venue, parce que voilà, elle a fait le chemin, etc. Mais quand c'est pas le cas, on voit la petite fille, nous, dans nos cabinets, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, avec des espèces de compulsions sorties de nulle part qu'on ne comprend pas, genre... Ben soit elle peut développer un vertige complètement phobique du vide, des échelles, voilà. Ou à l'inverse, être extrêmement risque tout, hein, genre faire de l'alpinisme, s'exposer à des chutes, etc. Parce que elle signifie que quelque chose n'a pas été dit et ça se retrouve dans le vécu. Sauf que, à moins de faire une analyse, eh ben on ne sait pas d'où ça vient.
Alors, je sais que mon deuxième, celui qui avait 8 ans, quelques temps après, est devenu d'un seul coup très, très... Il pouvait plus aller à l'école tout seul, des choses comme ça. Mmh. Il recommence seulement, mais c'est récent, c'est d'ailleurs il y a 15 jours. Mmh. D'un seul coup, une peur de la séparation.
Oui, ben oui. Je vous engage à dire les choses hein, avec des mots appropriés, mais des mots exacts, ça va aller beaucoup mieux. Surtout si vous avez cautionné et validé la position de votre frère, les mots seront d'autant plus faciles à trouver. Il faut lui dire qu'il était malade et que ça a été son choix et que vous respectez ce choix. Il n'y a aucun souci à dire des choses comme ça à des enfants.
Hein, en même temps, mon entourage était contre.
Oui, mais je me doute, mais vous êtes libre de vos choix aussi. C'est votre fils. Hein,
oui, enfin, c'est pas le mien, c'est celui de mon mari aussi.
Parce que votre mari n'est pas d'accord.
Que je lui dise qu'il a eu un suicide assisté.
C'est pas un suicide assisté, il ne faut pas employer ces mots-là. Il faut dire qu'il a décidé d'arrêter sa vie parce qu'il n'en pouvait plus en expliquant ce qui aurait suivi comme dégradation. Dégradation physique.
Pas tout à fait jusqu'à la fin, mais déjà paralysée. Oui,
oui mais justement.
Je les ai emmenés exprès jusqu'au moment
mais bien sûr.
Où mon frère voulait. Quoi, en fait.
Donc c'est tout à fait explicable, surtout à des âges comme ça. Il a décidé d'arrêter parce que la suite aurait été impossible et qu'il n'aurait pas pu prendre la décision après, parce qu'il n'aurait plus été en état physique. Donc il a pris la décision d'arrêter. Il a bu un produit qui a arrêté sa vie. Il l'a choisi. Et j'ai validé ça et je suis contente que ça se soit passé comme ça. On l'a décidé ensemble. Vous allez voir, votre fils, il va aller beaucoup mieux. C'est garanti. Hein.
Enfin, c'est moi, je ne vais jamais pouvoir lui dire ça sans pleurer.
Mais ce n'est pas grave, il faut pleurer. On n'est pas des robots et c'est tout à fait normal qu'un enfant souffre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voit la souffrance de ses proches, de ses parents, c'est quand même quelque chose de naturel. Il n'y a pas à cacher ça. Oui, c'est ça, l'humanisation, hein, transmettre.
Que du deuil de son cochon d'Inde.
Ben oui.
J'ai vu un an avant, enfin, je sais pas.
Oui, comment... ben, parce que ça fait ressurgir, ça c'est normal.
Il n'y a que hein. Ça, il parle que du deuil du cochon d'Inde.
Dites-lui les choses. Je vous assure, dites-lui les choses.
Qui ne veut plus voir mourir qui que ce soit, en fait.
Parce vous lui expliquez que le cochon d'Inde est mort tout seul de sa belle mort. Voilà. Et que nous, humains, on a une autre réflexion et un pouvoir de décision sur tout ça.
Ça peut l'aider par rapport à ça aussi.
Bien sûr. Bien sûr. C'est normal que ça ressorte parce que on ne mesure pas à quel point les enfants sont extrêmement proches de ce type de petits animaux de compagnie ou plus gros animaux de compagnie. Et par exemple, moi j'incite, quand il y a un chien qui meurt par exemple, hein, que l'enfant a été élevé avec ce chien, c'est un drame qui passe souvent inaperçu et qu'on ne mesure pas. Pourquoi ? Parce que, entre autres choses, au-delà de toute la relation enfant-animal ou homme-animal, il se trouve que par-dessus le marché, l'enfant, il a appris à marcher avec l'animal. C'est-à-dire qu'il a été à la même hauteur pendant très longtemps, des mois et des mois. Et que ça crée un lien très particulier. Et que quand ce lien disparaît, l'enfant en est très perturbé. Et nous, on croit qu'il est perturbé comme nous, mais il est perturbé en plus autrement.
Même s'il s'y intéressait à peine.
Il s'y intéressait à peine, mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des réponses sur la mort.
Oui,
donner
c'est
les
ce lus. Que je dis. J'ai l'impression que c'est une sorte de transfert. Il me parle du cochon d'Inde, mais ce n'est pas du cochon d'Inde.
C'est ça. Il parle d'autre chose.
C'est jamais, je n'ai pas tellement intéressé. Enfin, c'est moi qui m'en occupais. En compte.
Il vous questionne. Répondez-lui.
Et visiblement, ça le trouble sur son métier, parce qu'il veut, il y a certaines choses qu'il ne veut pas faire, comme dans le médical, alors que ça l'intéresse, vétérinaire, s'il ne veut pas voir mourir des animaux.
Il faut lui parler de la mort et lui expliquer que ça fait partie de la vie et que c'est normal.
J'ai essayé, mais bon, ce n'est pas évident.
Si, c'est évident.
Ah bon ? C'est facile. C'est évident.
Plus on aborde les choses simplement, mieux ça va. Oui ? Je vous donne la parole après. Allez-y.
Je voudrais savoir quel recul on a auprès des familles et des proches après les décès des patients dans ce cas de la Suisse là.
Quel
recul on a, c'est-à-dire est-ce que les proches, les familles, on les suit toujours ? Est-ce qu'il y a un retour ? Est-ce qu'il y a des problèmes ?
Et puis, il y a souvent des familles, des proches qui viennent comme accompagnants après, des années après, pas tout de suite pour réparer, mais une fois que le chemin a été fait suffisamment.
Vous pouvez nous dire un peu plus ?
Je sais pas grand-chose, hormis que les retours qu'on en a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les deuils se vivent bien.
Mais comment on peut savoir si le deuil est bien vécu ?
Parce que les gens en parlent et reviennent dans l'association échanger. Ça leur fait le plus grand bien.
Et jamais personne ne regrette
Écoutez, jamais personne, je sais pas, non, parce qu'il n'y a pas tout ou rien. D'après ce qu'ils en disent, très majoritairement et plus que majoritairement, non. Parce que c'est ce qu'expliquait la dame tout à l'heure, c'est pas un truc qui se décide comme ça. Moi, je me souviens, il m'avait parlé de cas, par exemple, de partenaires, de couples, qui n'étaient pas d'accord pour que les choses se fassent. Qui sont revenus les voir après le décès en leur expliquant combien finalement ils avaient regretté que les choses n'aient pas pu se faire comme le défunt l'avait souhaité.
Merci. C'est Annie.
Madame nous a expliqué le décès de son frère qui avait manifesté sa volonté. Moi, je suis je fais partie de l'association de la DMD, donc je suis un peu dans son cas. Mais je suis mal à l'aise quand les médias nous relatent le décès de Jean par administration d'une piqûre, d'une dose létale par un médecin, etc. Où apparemment, on avait l'assentiment de l'entourage, mais les personnes concernées ont... Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux ? Est-ce qu'ils avaient manifesté ce désir-là ?
Je ne veux pas vous répondre.
Oui. Mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, de toute façon, c'est très compliqué. En ce qui concerne la Suisse, c'est ce qu'expliquait la dame. C'est au cas par cas et avec de longs débats, longues discussions. C'est beaucoup plus raisonné que ce que font effectivement sans doute certains médecins.
Dans l'affaire de Bayonne, par exemple, les avis étaient partagés.
Oui, les avis étaient partagés.
Certains vont même jusqu'à dire que ça permet de laisser des places à l'hôpital.
Mais moi, je ne peux pas intervenir sur ce qui s'est passé à Bayonne parce que je l'ignore absolument. Et les médias aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à la limite, il ferait mieux de s'abstenir de faire du battage sur des cas comme ça.
Ce que je veux dire, c'est beaucoup plus simple quand chaque personne a manifesté sa volonté.
Ah, ça, c'est sûr. D'où l'intérêt, effectivement, de prévoir. Mais pas plus tard que cette semaine, la semaine dernière, moi, j'ai une jeune femme qui a quoi, 35 ans, 38 ans, mère de famille. Qui souffre d'un cancer du sein et qui a évoqué avec son mari, parce qu'elle a très peur de la mort, les directives, ses souhaits, et ça n'a pas été possible. Il n'a pas pu faire face à ça et accepter d'en parler avec elle. Alors bon, ok, lui, il faudrait qu'il fasse un chemin ou qu'il soit accompagné, etc., mais en même temps, il n'est pas aidant pour elle du tout. Parce qu'elle, elle partirait rassurée de savoir comment, d'avoir mis les directives qui lui conviennent, de dire comment elle veut être enterrée, incinérée, ce qu'elle veut pour ses enfants, etc.
Oui, pour l'affaire Humbert, c'était plus simple aussi, entre guillemets.
Ça, c'est sûr. Mais on a vu le scandale que ça a fait. Hein. Après, je pense que les médecins, c'est en leur âme et conscience. Et normalement, c'est pas ce que racontent les médias. Quand même, faut pas exagérer. Ça se passe pas comme ça. Ou alors, effectivement, il y a certainement, comme partout dans toutes les professions, des médecins qui transgressent, qui s'autorisent peut-être n'importe quoi. Mais enfin, c'est pas la norme. Ils ont une déontologie et quand ils prennent ce type de décision. Soit ils savent ce que voulait le patient, soit ils se sont concertés avec les familles, et surtout, c'est une décision collégiale, c'est-à-dire prise avec toute l'équipe soignante. Hein. Jamais un médecin ne s'autorise à prendre une décision comme ça tout seul, ça n'est pas vrai.
Bonjour. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais m'arrêter à deux. C'est sur l'inconscient. J'aurais voulu... celui-là.
Attendez, je vous vois. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, sur l'inconscient. Oui, allez-y.
Qui ignore la mort, ça, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu. Est-ce qu'il ignore beaucoup de choses comme ça? Et la deuxième question...
Quoi, attendez, j'ai pas compris la question.
L'inconscient, vous avez dit qu'il ignorait la mort.
Oui.
Et moi, comme je ne connais pas grand-chose dans l'inconscient, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu ça. Et la deuxième chose, c'était pour continuer sur les réticences par rapport au suicide du corps médical. Je voulais savoir si c'était lié à notre religion catholique. Est-ce que c'est transculturel? Est-ce que c'est dans d'autres cultures? Est-ce que ça traverse toutes les cultures ou il y a d'autres cultures qui ont un autre rapport à la mort, enfin, etc. Et surtout au suicide.
Alors, le suicide, je ne sais pas trop vous répondre là-dessus. En revanche, le rapport à la mort, ça, oui. Parce qu'il y a des tas de cultures où la mort est acceptée, est proche, est naturelle, où on peut aller manger sur une tombe, faire une forme de fête presque sur une tombe. Il y a des cultures pour laquelle, mais même à la limite, la religion catholique, ça devrait être ça, parce que finalement, Oui. Il y a des tas de cultures animistes, des religions, en Afrique, en Asie, où on accompagne le mort comme quelque chose de. Mais comme c'était ici autrefois, quand même, un peu pareil, ça, c'était beaucoup plus naturel, normal, dans les mœurs, les gens mouraient à la maison, dans leur lit, accompagnés de leurs proches, il n'y avait pas toute cette médicalisation, il n'y avait pas tout ce rejet de ce qui fait partie de la fin de vie, de toute façon. Pardon ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, absolument, oui. Donc ça c'est un. Et l'autre question par rapport à l'inconscient, c'est un fait que l'inconscient, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus, l'inconscient ne connaît pas la mort. Il n'est pas programmé comme ça. Il n'est pas programmé dans le temps non plus. Hein, c'est transtemporel. C'est-à-dire que l'inconscient, il peut vous ramener des trucs qui sont passés il y a 50 ans, blâme comme ça, dans un rêve, dans un lapsus, dans un acte manqué. Et vous ne savez pas d'où ça vous vient, mais voilà, ça en vient. Ou, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à cette petite fille, dans des conduites à risque ou des symptômes phobiques ou autres, qu'on ne s'explique pas, mais qui ont une cause et une origine bien précise. Et quand on remonte à ça à travers les analyses, les symptômes disparaissent. C'est pour ça que je disais à madame de parler avec son fils, parce que, outre le fait qu'il va aller mieux, ça lui évitera surtout de se construire sur un refoulement, parce qu'il sait, hein, dans le fond, un refoulement qui un jour ou l'autre sortira et qui se fera payer d'une manière ou d'une autre. C'est quand même comme ça que ça se passe, hein. On voit ça tous les jours dans toutes les analyses, hein. Ce qui reste en vrac comme ça, caché, ça finit par ressurgir. Parce que surtout un enfant, il sait, il n'a pas les mots. Il n'ose pas forcément questionner s'il sent qu'il n'est pas le bienvenu parce que les parents n'ont pas envie d'en parler ou ne savent pas comment en parler ou ne veulent pas en parler. Donc parfois il s'abstient, mais il peut questionner à travers un hamster, effectivement.
Peut-être pourriez-vous apporter une précision sur ce qu'il est possible de dire aux enfants, justement en cas
tout
de suicide.
Tout.
Jusqu'où peut-on aller dans le... Bon, on sait qu'il y a des formes de suicide qui sont particulièrement violentes.
Il ne s'agit pas de leur donner les détails les plus scabreux, mais il faut leur parler du suicide, leur dire que c'est un droit de chacun d'arrêter, sauf si vous avez des convictions éthiques religieuses. Mais sinon, la tolérance de l'état d'esprit religieux, c'est peut-être aussi d'accepter le choix de l'autre, même si
ma question n'est
pas le même.
Ma question ne concernait pas dire... un enfant qu'une personne s'est suicidée.
Oui.
Ça, j'en suis convaincue. Mais l'enfant va... Mais c'est arrivé comment?
Ah oui, mais
comment
il faut...
il a fait?
Oui, j'ai un peu supervisé, si on peut dire. Enfin, je sais pas, j'aime pas bien le mot, mais... l'annonce pour deux enfants petits de l'assassinat de leur mère. Là, c'est tout récent, il y a 3 semaines. Un mois, je sais pas. Les grands-parents et le père voulaient savoir ce qui était le moins pire à dire. Et en fait, la réflexion, le travail, les a très vite, parce qu'il y avait urgence, hein, là, qu'il fallait leur dire non seulement que leur mère était morte, mais qu'elle avait été assassinée. Par qui? Et comment le petit garçon a voulu savoir? Et donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je sais pas, vous inventez quoi? Si on lui dit pas, il va le savoir par les journaux, par les copains, à l'école, de manière extrêmement violente, voire moqueuse ou terrible. On est toujours gagnant à ce que les choses soient posées clairement. Après, il s'agit pas de leur raconter la scène de crime, évidemment.
C'est vraiment savoir où s'arrêter, parce que c'est vrai que les enfants, surtout jeunes, ils vont avoir tendance à... aller de plus en plus loin.
Non. Le petit garçon, là, il veut comprendre, mais vous ne pouvez pas empêcher un enfant de comprendre, parce que ça va lui nuire après dans son installation de sa constitution personnelle, psychique, justement. Il faut qu'il comprenne. Donc, tant qu'il questionne, il faut répondre. Voilà. Quand il ne questionne pas, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'il demande, sauf à ce que je disais tout à l'heure, de faire attention au fait que quand l'enfant sent que vous ne voulez pas dire, là, il va s'abstenir de questionner. Donc, quand il y a quelque chose de coincé, parce qu'après tout, on ne peut pas jeter la pierre à des parents de ne pas pouvoir dire, qu'ils en passent par une autre personne de la famille qui est plus à l'aise avec ça, ou un professionnel.
Bonjour, vous parliez tout à l'heure de la participation possible des enfants aux cérémonies en cas de décès.
C'est très important.
Et je me demandais si vous faisiez un distinguo entre le fait d'accepter que les enfants voient le corps du défunt et participent à l'enterrement, parce que c'est souvent une question que les parents se posent.
C'est pas la même chose. Effectivement, les parents se posent souvent cette question. Il faut jamais forcer un enfant, mais il faut lui proposer. C'est important, je parle pas de la question de voir le corps, parce que ça c'est très particulier, mais au niveau symbolique, puisque ça n'est que du symbolique, hein, l'inhumation, les rites qui sont autour, c'est très important que les enfants y participent, parce que d'abord, ça les inscrit dans le symbolique des générations d'adultes qui donnent à voir et qui participent à ces rites précisément. Et ensuite, parce que comme tout un chacun, quand il n'y a pas de corps, par exemple, quand on ne retrouve pas un défunt, on sait très bien que les adultes et les enfants, mais même les adultes, ont beaucoup plus de difficultés à faire le deuil. Donc pareil pour les enfants. Il faut qu'ils aient vu le cercueil, la commémoration, la tristesse, voilà. Moi, j'entends ça souvent, des parents qui me disent « je veux pas pleurer, je veux pas… » Mais si, pleurer, qu'ils vous voient pleurer, au contraire, ça les structure. C'est pas la question de les forcer, c'est la question que… On rend honneur à un mort et que la famille y va et ils font partie de la famille. Après, ça peut être plus compliqué avec les adolescents. Hein. Mais je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Hein. C'est pas en termes de forcer, c'est en termes de leur expliquer que c'est pas une solution que de contourner, d'évincer et de s'économiser ce moment-là. C'est pas une solution constructive, jamais. Vous avez il faut le savoir, des enfants et des adolescents qui, suite à un décès, font comme si de rien n'était. Mais vraiment. À tel point que vous recevez les familles effondrées, offusquées, qui vous disent « mon enfant, il a aucun sentiment, aucune sensibilité, il pleure pas, il continue à jouer avec les copains, voilà ». Mais pas du tout, en fait, pas du tout. C'est leur manière de réagir, donc ça doit être respecté. En revanche, si vous ne les incitez pas à participer au rite, après c'est trop tard, si c'est pas fait en temps et heure, c'est pas fait, c'est pas vécu, c'est pas partagé, c'est irréversible. Et ça, c'est dommage.
Par exemple, j'ai un petit-fils qui faisait une lecture à la messe le jour de l'enterrement de sa grand-mère. Mm-hmm. Et il était vraiment fier. Et puis,
Oui.
Il se trouvait important et puis intéressant de faire ça. Enfin, il trouvait que c'était son rôle, quoi.
Oui.
Puis qu'il était comme les grands et puis que c'était normal.
Oui, c'est très bien. C'est très bien qu'il fasse des dessins, qu'il cueille des fleurs, qu'il les mette sur le cercueil. Oui, bien sûr. Il participe. Il faut qu'il participe. Sinon, c'est pas vécu, c'est pas partagé, et donc vous les excluez. Et à quel titre ? De quel droit ?
Je vais une autre question. Quand le médecin vous dit, enfin ça s'est passé au décès de mon père, on nous avait interdit aux enfants de lui dire qu'il avait un cancer et qu'il en avait pour 100 jours, quoi. Et là, c'était difficile pour nous, quoi, parce que il nous disait, le médecin, surtout ne lui dites pas, parce que c'est vrai qu'il avait découvert trop tard son cancer, il se sentait un peu pas à l'aise, et puis peut-être il a eu peur, mais il nous a dit surtout, il faut surtout pas lui dire, alors qu'il savait très bien ce qu'il avait. Il nous disait tous les jours qu'il allait mourir, et c'était...
Ben oui.
C'était pas facile pour nous de vivre ça, quoi.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensiez ?
C'était dur. J'y allais tous les jours. Il me disait, oui, vous me dites pas que je vais mourir, mais je le sais, je le sens.
Ben oui. Ben oui. Et à quel titre est-ce qu'un médecin s'octroie comme ça l'autorité de décréter. Alors après, la question du diagnostic, ça, c'est tout à fait autre chose, parce que finalement, c'est de ça dont il est question, là. C'est ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas au malade. Et ça, c'est du cas par cas. Parce que on peut dire en fonction de ce que la personne veut entendre. Et c'est vrai qu'il y a des patients qui font de la dénégation, voire du déni, qui ne veulent rien en savoir, qui vont s'accrocher jusqu'au bout au fait qu'ils vont guérir, qu'on va trouver un truc, un traitement, que c'est pas fini, etc. Donc les médecins sont pris en otage, là, hein, dans des trucs comme ça. Bon, je pense qu'effectivement, il n'y a pas lieu de s'autoriser à dire à des familles « vous faites comme ça et pas autrement ». Parce que ça, c'est pas de leur ressort, effectivement. Mais quand c'est bien fait, ce sont des discussions. Et puis, et a fortiori, dans un cas comme ce que vous exposez, dans la mesure où votre père savait, et en général on sait, et qu'il est demandeur. Et j'entends très souvent des proches me dire, mais le malade, la personne qui va mourir, là, elle le sait. Elle me tend des perches, elle me glisse sans arrêt un tapis. Je dis, mais pourquoi vous le prenez pas? Prenez-le, c'est fait pour ça. Ils ont envie d'en parler, sauf qu'ils n'osent pas, sauf qu'ils ne peuvent pas, parce que ça fait pleurer, parce que ça vous met mal à l'aise. Voilà, souvent, les gens ont une attitude en fonction de ce qu'ils sentent, de celle que nous, on va avoir. Hein, et s'ils sentent qu'on n'est pas prêt à avoir la réaction qu'ils attendent, ben, ils se dispensent. Et c'est pas aidant. Et beaucoup de gens qui... moi, je vois, je connais des psychologues qui travaillent en soins palliatifs. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir, qui ont envie d'en parler. Pas forcément avec leurs proches, d'ailleurs. Hein. Ça peut être avec les psychologues, ça peut être avec une aide-soignante, mais ils en parlent. Et c'est mieux pour eux. C'est très aidant de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, sur leurs angoisses, hein, sur leur peur de la mort, qu'ils puissent dire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent d'entendre parler de ça. Pour ce que la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça terrifie la mort des autres, ça parle de la nôtre. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, plein de gens ne veulent pas entendre parler de directives anticipées, de dons d'organes, etc. Ou même de trucs tout bêtes comme où je veux être enterrée.
Moi, ce dont je voudrais parler, c'est de mon fils qui passait un examen qui était très important pour lui. Et malgré tout, il voulait aller à l'enterrement de son assistante maternelle qu'il avait connue depuis qu'il était tout petit.
Ah oui.
Et ben, on était très, très embêtés.
C'est-à-dire qu'aller à l'enterrement, ça l'empêchait de passer l'examen?
Parce que c'était le jour de
l'examen. Oh là là.
Et là, c'était vraiment un problème. Et
ah oui.
Ben, on lui a dit, ben non, il faut que tu passes ton examen, c'est important pour toi. Mais après, comment réparer les choses, je ne sais pas.
Mais d'abord, il avait quel âge?
Une vingtaine d'années.
Et il mesurait l'importance de cet examen et de perdre un an s'il ne s'y présentait pas, etc. C'est un truc qui est à discuter longuement.
Oui, ben on n'a peut-être pas suffisamment discuté.
Parce
qu'effectivement,
que...
pour nous parents et l'entourage de cette assistante maternelle lui a dit il ne faut pas que tu rates, quoi. Faut que tu le passes, cet examen. C'est très important pour toi.
Peut-être c'est ce qu'elle aurait voulu, elle aussi. Mais qui dit discuter ne dit pas forcément, être dans la contradiction totale. C'est-à-dire, si vous aviez pris la peine de prendre du temps pour discuter avec lui, il en serait peut-être venu à convenir avec vous que c'était plus raisonnable pour lui, plutôt que de se poser de manière un peu directive. Hein, c'est un débat, la contradiction. Il faut pouvoir, dans un débat, faire face à la contradiction, parce que qui dit contradiction n'exclut pas forcément argumentation et persuasion.
Oui, parce que là, c'est vrai que...
D'autant qu'il l'a fait. Il l'a passé, son truc.
Il l'a passé. Oui. Il l'a réussi, mais...
En plus. Ouais. Bon, ce qui est plutôt bon signe. Parce que si vraiment ça n'avait pas été son choix, il vous aurait probablement planté le résultat. Hein. Ouais. En revanche, la question de réparation, oui, il faut qu'il s'y attelle, c'est, ou ça remonte à longtemps.
Ben, ça remonte à 13-14 ans.
Ah oui, donc, mais à l'époque, ce qui lui était important, c'est que ben, il aille sur la tombe mettre des fleurs, qu'il envoie des, une participation de fleurs ou de je ne sais pas quoi le jour de l'enterrement. Je sais pas, des choses, il faut inventer des solutions, inventer des petits trucs, parfois ça suffit. Qui téléphone le jour de l'enterrement à un proche de son assistante maternelle, ou à son mari, ou à ses enfants, voilà, pour participer, pour faire preuve de présence, pour avant, après l'examen, le soir, le matin, voilà.
Je pense qu'il a dû téléphoner quand même au mari de son assistante maternelle. Mm-hmm. Mm. Voilà. Merci beaucoup.
Oui, bonsoir. J'appartiens à l'association Grématiste.
Oui.
Et tout ce que vous avez dit est très intéressant pour nous parce que nous avons forcément des contacts avec des personnes endeuillées. Oui. Et par rapport à ce qu'a dit ma voisine tout à l'heure sur ne pas dire au malade qu'il est en fin de vie, etc., vous avez aussi dit dans votre intervention que l'entourage se modifie autour de la famille endeuillée comme autour des personnes atteintes de maladies longues, etc. Mmh. J'ai vécu ça aussi, à savoir quand vous avez certaines maladies, ça fait peur aux gens, comme la mort leur fait peur. C'est-à-dire, oui. Je vais vous dire...
Non, mais ce n'est pas la maladie qui fait peur aux gens, c'est la perspective de la mort à l'issue de la
voilà,
maladie.
Voilà, j'avais une vieille dame qui habitait à côté, juste ma voisine, quand j'ai été assez malade, et quand je suis rentrée de l'hôpital, elle n'osait plus venir chez moi. Il a fallu qu'un matin, j'aille lui demander du persil pour qu'on reprenne un contact. Elle avait peur.
Oui.
Hein, voilà, parce qu'il y a des maladies aussi, on a peur d'en parler.
Oui.
Et quand on rencontre des gens endeuillés, c'est pareil. On entend souvent dire autour de nous, mais je ne sais pas quoi lui dire. Vous lui dites les choses normales de la vie. C'est-à-dire, bah, comme d'habitude, on commence à lui demander comment va la personne, et si elle parle, ma foi, de son deuil, ben voilà, comme vous dites, il faut l'écouter. Donc ça nous a très intéressé tout ce que vous avez dit, parce que ben souvent nous aussi, on est confrontés à toutes ces questions-là.
Je crois qu'il faut beaucoup d'écoute et aider les gens à trouver leur solution.
Voilà. Et c'est vrai que là aussi, bon, j'ai vécu une cérémonie au crématorium avec une famille où il y avait un petit garçon et sa sœur, sa petite sœur. Et pendant toute la cérémonie, la petite sœur a pleuré. Et ce petit garçon qui avait peut-être 9 ans, quelque chose comme ça, est resté dans un enfermement, m'a-t-il semblé. Hein, et j'ai dit, mon Dieu, ça m'a fait de la peine, quoi, ce petit garçon. Tout le monde s'occupait de sa petite sœur qui pleurait. Et lui, il était là, personne ne lui disait rien. Et donc, en sortant, je lui ai dit, t'as beaucoup de peine pour la mort de ton papy.
Bien sûr.
Il m'a dit oui. Alors, bon, j'ai parlé aussi avec la grand-mère. Et puis, je lui ai dit, vous savez, des fois, les enfants, ils sont contents quand on leur donne quelque chose. Vous savez, un objet qui a été de son grand-père.
Oui,
ou comme
absolument.
Ça. Et ce petit garçon, moi, pendant toute la cérémonie, ça m'a brisé le cœur de le voir se retenir. Je lui ai dit, mais tu sais, tu peux pleurer aussi. Hein, c'est, voilà.
Oui, mais parfois, ils ne peuvent pas aussi. Hein.
Voilà, mais on sent ça. C'est comme souvent, les hommes aussi n'osent pas pleurer. Mm-hmm, les femmes pleurent, les hommes se retiennent. Mais non, tout le monde peut pleurer. Quoi,
oui, hein. Bien sûr.
Et voilà. Donc voilà, c'était très intéressant tout ce que vous avez dit.
Il y a Annie, une dame là. On va peut-être arrêter après.
Excusez-moi, je confisque.
On prend les deux questions là, madame, et puis vous, puis après on va peut-être...
D'accord. Oui, juste... bonsoir. Juste un point de vue, simplement. On dit effectivement, dans le cas des personnes en fin de vie, notamment ce que j'ai entendu pour la jeune femme, ma voisine, à qui on a interdit de dire au médecin, ou de dire au malade qu'il était en fin de vie, lorsqu'on est réellement en fin de vie. Vous dites que le malade ou la personne qui va mourir souhaite parler de sa propre mort, bien entendu, tout le monde en est conscient. Il y a, mon point de vue, que de plus, lorsque la famille ne parle pas ou a des réticences, que la personne qui va mourir le sent, bien évidemment. Qui plus est, il y a un attachement qui se crée et un manque de sérénité pour cette personne pour vivre complètement, à mon sens,
oui,
sa mort,
tout à fait,
ses derniers instants.
Tout à fait.
Donc, la famille, par amour vraisemblablement, fait en fait, à mon sens, l'inverse de
tout
ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire l'accompagner réellement.
Mais ça ne s'improvise pas, et quand les gens ils n'y arrivent pas, c'est en ça que c'est bien qu'il y ait dans les hôpitaux et les institutions des psychologues qui fassent médiation. Il y en a de plus en plus quand même. Oui.
Oui, je voulais donc rebondir sur le fait que le médecin avait interdit de.
Oui,
dire...
a déjà interdit voilà, dans ces matières-là.
Le médecin n'a pas le droit.
Mais non.
C'est au contraire un devoir d'informer le patient
en plus, normalement,
son diagnostic, sur les traitements envisagés.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est dans la charte du patient hospitalisé.
Absolument.
Donc c'est aussi le. Peut-être.
Mais ça ne se pratique pas pour autant dans bien des cas.
Oui, mais dans ces cas-là, peut-être si la famille sait que le médecin n'a pas le droit d'interdire. De dire le diagnostic, s'autoriser à dire nous on n'est pas d'accord et aller parler à la famille. Même il peut être, je veux dire, la famille peut aussi attaquer entre guillemets le médecin qui a refusé de donner un diagnostic à un
patient.
Tout à fait.
C'est la loi. Hein, oui. C'est la loi, mais bon, les familles se font beaucoup. Déjà, elles sont particulièrement vulnérables dans ces moments-là. Et on est encore dans le médecin, l'aura de ce qu'il dit, de ce qu'il pose, ça existe encore. Hein. Je suis pas d'accord. C'est toujours, quelles que soient les, il y a pas de règle, il y a pas de on doit, il faut, c'est du cas par cas et pour chaque cas prendre le temps. De réfléchir, de s'interroger et de trouver les solutions les meilleures. Mais dans le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est pas ce qu'on décide soi. C'est la tolérance à l'autre.
Bon, nous allons être obligés d'arrêter, mais c'était passionnant. Vous nous avez vraiment fait une approche très, très intéressante. Et puis, Madame Plomb va être dans l'entrée, s'il y en a qui sont intéressés par ces deux livres. Elle peut être avec vous là-bas. Alors, une recommandation, comme c'est dans la loi de... Vous pouvez, ceux qui ne connaissent pas la loi de 2005, vous pouvez prendre ce petit bulletin bleu et blanc. Il y a tout ce qui est dans la loi de 2005, refus de l'acharnement thérapeutique, prise en charge de la douleur et directive anticipée, personne de confiance. Essayez d'y penser, de réfléchir à quelles sont les personnes qui peuvent être vos personnes de confiance. Ce ne sont pas forcément vos enfants, ça peut être aussi un ami, une amie. C'est important de l'écrire et puis de rédiger vos directives anticipées. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et vous vous sentirez mieux quand vous en aurez parlé autour de vous. Mais ce n'est pas facile de trouver les moments... C'est long, mais il faut le faire. C'est important et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Merci à tous.